La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Fiction, poésie et dialogue. Relire Théonas de Maritain et publié en 1921 nous permet de comprendre comment la création littéraire, il a reçu 3 prix littéraires pour son écriture absolument superbe, dans la veine, on pourrait dire, de Bergson qu'il admirait, et bien comment cette fiction est à l'origine de l'œuvre de Jacques. Cette fiction, c'est tout simplement un dialogue. Un dialogue avec un étranger qui arrive et qui peut voir ce que nous ne voyons plus quand nous sommes habitués à nos murs, à notre hexagone et à nos idées. C'est donc une œuvre polémique qui vient définir ce qu'est l'intelligence pour Jacques Maritain, puisqu'elle anticipe, elle sert d'antichambre à Antimoderne qui sera publié l'année suivante. Alors reprenons dans ce premier chapitre, la liberté de l'intelligence, le cours de la discussion pour nous apercevoir que ce dialogue est éminemment travaillé. Il s'appuie sur une référence au Phèdre de Platon. Nous allons en voir des exemples très précis. La discussion s'est engagée à partir de la statue d'Auguste Comte à la Sorbonne avec les deux mots « ordre » et « progrès ». Et donc s'agit-il de définir un progrès dans l'ordre de l'intelligence à la manière de Comte et de ses 3 états, l'état mythique, l'état métaphysique, l'état scientifique. Évidemment, Maritain se fait le chantre du non, et au contraire, Philonous semble un peu fasciné par ce mot tout, c'est-à-dire cette sentence « ordre et progrès ». Donc la discussion a roulé sur la définition de l'intelligence selon Aristote, et là il faut arriver à définir ce qu'est l'intelligence. Est-ce que notre notion au XXe siècle correspond à la même que celle d'Aristote? Rappelons la situation. 1919, traité de Versailles, création de la Société des Nations pour reconstruire l'Europe qui est complètement différente de celle d'avant 14. 14-18 marque la fin des empires, on va dire la fin du 19e siècle, et d'un monde sur lequel, en politique, en économie et même dans l'art, on était habitué à compter, pour engager une nouvelle manière de penser les choses, une manière évidemment mondiale, mais surtout une manière marquée par la montée de la technocratie. Après la révolution industrielle du début du 19e siècle, c'est la technocratie qui monte, et la grande question que Maritain va se poser, c'est celle de reconstruire une Europe théocentrée, avec un humanisme qui ne soit pas anthropocentré comme celui de la Renaissance, mais théocentré, et vous le saisissez tout de suite, l'intelligence va avoir sa place éminente, mais une intelligence, nous l'avons vu dans la dernière émission de la semaine précédente, qui est comprise dans ces 2 modes. Le mode opératif, avec l'exemple de l'art, et on a donné la parole à Renoir, qui donne un témoignage vivant, et dans son 2e mode, qui est le mode spéculatif, qui intéresse ici, à proprement parler, Jacques Maritain. L'âme cachée de votre philosophie, n'est-ce pas à ce postulat que l'esprit de l'homme se comporte comme un esprit pur et doit connaître comme connaissent les anges, en transcendant à la fois le labeur de l'abstraction et celui du discours, syllogistique. Vous avez cru d'abord qu'une telle manière de savoir était possible à l'intelligence humaine. C'est alors que nous vous avons connu platonicien, puis cartésien, malebranchiste. Vous avez ensuite partagé votre sympathie entre Leibniz et votre grand ami Berkeley, dont les écrits répandirent votre nom dans le public. Mais après cela, lorsque Kant vous eut persuadé que l'intelligence ne pouvait savoir ce qu'elle fabriquait elle-même, que l'intelligence ne pouvait savoir que ce qu'elle fabriquait elle-même, et que l'absolu lui était fermé, pouviez-vous demander à autre chose que l'intuition bergsonienne le sentiment de la vie, ou toute autre sorte de sympathie imaginative, ce que vous renonciez à espérer de l'intelligence? Voyons 2 lignes. La première ligne qui va jusqu'à Berkeley, c'est une ligne qu'on pourrait dire idéal d'une intelligence que Maritain définit comme quelque chose qui transcende le labeur de l'abstraction et celui du discours syllogistique, c'est-à-dire le syllogisme, pour rappel, c'est un moyen de pensée mis au point par Aristote. Il est fondé sur le principe de non-contradiction et l'exemple le plus connu, c'est « tout homme est mortel, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». La majeure, tout homme est mortel, est suivie de la mineure qui permet d'associer un exemple, un particularisme à la définition générale, or Socrate est un homme, pour arriver à la conclusion, donc Socrate est mortel. Donc cette veine que Maritain trace de manière très rapide, de Platon à Berkeley en passant par Descartes, Malebranche et Leibniz, se trouve remise en question par Kant. Kant est présenté comme quelqu'un qui fabrique, c'est-à-dire l'intelligence ne peut savoir que ce qu'elle fabrique elle-même. C'est ce que Maritain appellera en 1924 dans Réflexion sur l'intelligence la transitivité kantienne. La pensée produit quelque chose dans un acte transitif qui s'oppose à l'acte immanent où le sujet connaissant devient l'objet connu. Donc que faire face à cette sclérose de l'intelligence? Eh bien on va considérer Bergson comme un sauveur parce qu'il défend l'intuition contre l'intelligence dans la mesure où l'intuition est qualitative alors que l'intelligence est limitée au quantitatif pour le faire rapidement. Et donc cet engouement pour Bergson, Maritain l'explique justement par ce qui précède, c'est-à-dire par une réduction et une fausse compréhension de l'intelligence. La conclusion, la voici, c'est ainsi que l'anti-intellectualisme d'aujourd'hui, ou plutôt d'hier, est ou était la suite normale de l'intellectualisme outré, c'est celui donc de Platon à Berkeley, et du rationalisme d'avant-hier, c'est-à-dire celui de Kant. Je suis heureux, lui répond son interlocuteur, de vous entendre affirmer que la philosophie du changement pur est le fruit actuel d'un long effort ininterrompu de pensée. Cela me console de l'injure qu'on fait souvent aux philosophes modernes en les déclarant étrangers à toute tradition historique. Il y a pourtant cette différence entre la tradition moderne et la tradition de la philosophia perennis que dans la première, les philosophes se continuent en se contredisant et dans la seconde en s'accordant. De telle sorte que la philosophie dans les temps modernes est comme une suite d'épisodes ajoutés bout à bout, non comme un arbre où tout se tient par les racines. Donc là, mise au point du sens de tradition. Qu'entend-on par tradition? On pourrait dire qu'il y a une tradition de Platon à Berkeley. Attention, tradition n'est pas celle de la philosophia perennis, où il ne s'agit pas d'ajouter bout à bout, comme dit Maritain, mais de chercher un tout qui se tient par les racines. Comment concevoir la liberté de l'intelligence face aux mots d'ordre de Auguste Comte, ordre et progrès, qui sont inscrits au bas de sa statue, place de la Sorbonne. Maritain engage une discussion dans Théonas, un dialogue véritablement à l'image des dialogues platoniciens, et oppose un exercice de l'intelligence comme pur jeu où on contredit le précédent, on rajoute des théories, des systèmes, à une tradition conçue comme organique. Et la comparaison, c'est celle de l'arbre qui a des racines et qui ne va ne faire que croître en beauté, bien sûr, voire en sagesse. Voilà comment s'exprime Maritain en 1921 dans cet écrit polémique, fictif, mais qui sert d'antichambre anti-moderne. L'exercice de l'intelligence est alors devenu un pur jeu, une opération de luxe, un plaisir d'oisif, et si je peux reprendre ici un mot de Kant, une finalité sans fin. Vous comprenez que pour Maritain, il ne peut en être ainsi après la Première Guerre mondiale. Il s'agit de reconstruire l'Europe dans un humanisme théocentré et donc de redonner une profondeur à une intelligence qui ne soit pas un jeu, mais qui est bien une finalité avec fin. Libre ? En réalité, l'intelligence faussée par la religion du fait brut, subordonnée à la sensation, industriellement mise en œuvre par cette science utilitaire et matérielle qu'on a appelée la science allemande, était au service des puissances inférieures de l'être humain. De là, le dépérissement souvent constaté de cette faculté, exaspérée dans son activité, mais ne s'exerçant plus pour sa fin naturelle, et qui, se refusant à être fécondée par l'être, ne produit plus son fruit. Donc le seul moyen de s'opposer à une science allemande, entre guillemets, c'est-à-dire un idéalisme allemand, en prenant d'abord, on va dire, Kant par sa fabrication, l'intelligence ne peut connaître que ce qu'elle fabrique, et puis ensuite Hegel, à propos duquel Maritain aura des lignes très claires, eh bien il faut retrouver une fécondation par l'être pour qu'elle puisse produire son fruit. C'est une telle manière d'entendre le loisir de l'esprit qui est aujourd'hui devenue impossible, parce que dans le péril universel, tous les biens sacrés de l'homme, y compris la vie même de l'esprit, exigent despotiquement la mobilisation de toutes nos forces intérieures. Le péril universel, c'est le péril de la modernité que pressent Maritain, et ce péril exige, même dans la vie de l'esprit, l'adverbe est fort, despotiquement, la mobilisation de toutes nos forces intérieures. Nous sommes un peu plus de 100 ans après cet écrit, et je pense que nous le constatons tous. Vous souvenez-vous de ce curieux dialogue récemment rappelé par M. Chevrillon dans sa belle étude sur Chesterton? Et là, on a une incise, une intégration d'un mini-dialogue dans le dialogue, comme une sorte de mise en abîme, comme on a eu la semaine dernière, mais en note, avec Renoir et son éditeur, son biographe, Vollard. « Mais monsieur Taine, comment sauvez-vous le monde ?» demandait un jour une Anglaise à voix haute dans un dîner auquel assistait l'auteur des Notes sur l'Angleterre. « Mais madame, je ne sauve pas le monde, » répondait monsieur Taine. C'est que monsieur Taine n'était pas anglais. C'est aussi qu'il ne vivait pas en 1920. Aujourd'hui, il nous faut, si pauvres ouvriers que nous soyons, il nous faut travailler avec Dieu à sauver le monde. Travailler de tout notre être au bien commun de l'univers. Malheur à nous, cependant, si nous demandions à l'intelligence d'abdiquer ses droits, de renoncer à sa liberté et à son divin loisir. « Halte là !» fit à ce moment Philonous tout enflammé. « Vous allez vraiment trop fort. Comment pouvez-vous parler de la liberté et de loisir de l'intelligence quand vous voulez l'employer tout entière à l'action pratique ?» et la faire travailler sans répit pour le bien commun. « Ah non, 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 nous voilà au nœud du malentendu, » répliquai-je. « J'ai dit que l'intelligence doit travailler au bien commun de l'univers et de l'humanité. Je n'ai jamais dit qu'elle doit s'employer tout entière à l'action pratique. J'ai dit que la fausse liberté et le faux loisir d'une intelligence égoïste, subjectiviste, quiétiste, ont fini leur temps. Je n'ai jamais dit que la vraie liberté et le vrai loisir de l'intelligence ont fini leur temps, qui, lui, est éternel. Toute la question est de savoir comment l'intelligence travaille au bien commun. Mais pour répondre à cette question, il est nécessaire d'entrer dans quelques développements concernant la nature de l'intelligence, et je dois vous demander d'user, pour un moment, de patience avec moi. Allez, cher ami, je me résigne. Asseyons-nous seulement sur ce banc propice devant ce ruisseau citadin qui sera pour nous comme un Ilissus où nous ne baignerons pas, hélas, nos pieds. La référence au Phèdre de Platon, dont je parlais la semaine dernière, est claire. Mais nous sommes dans le quartier latin, au cœur de Paris. Il y a deux choses surtout, cher Philonous, à considérer dans l'intelligence. Le dialogue devient plus enseignant, on va dire plus didactique. D'abord, considérons son action, qui est tout à fait immanente, comme nous disons, c'est-à-dire qu'elle a pour nature. Non pas de produire un terme au dehors, mais seulement de parfaire, en qualité, l'agent lui-même, lequel en connaissant devient, d'une certaine manière, toute chose. Cette immanence, qui est le propre de la vie même, est un caractère essentiel à l'intelligence comme telle. En second lieu, dans cette opération vitale de la connaissance, notre intelligence est dépendante d'autre chose qu'elle. Ce n'est pas un pur jeu subjectif, c'est un acte d'assujettissement et de soumission à l'objet. Car si l'intelligence divine est cause et mesure de la vérité des choses, la vérité de notre intelligence, à nous, est causée et mesurée par les choses. Et c'est dans cet acte d'assujettissement à l'objet qu'elle a sa liberté. Elle est faite pour l'être en effet. Elle est tout entière tendue vers l'objet, vers l'autre en tant qu'autre. Et si elle a besoin du contact dominateur de l'objet, c'est pour s'enrichir de lui, dans une action victorieuse qui sort de sa spontanéité vivante et, si vous voulez, de son autonomie, puisque devenant immatériellement l'objet lui-même, c'est d'elle seule en vérité, mais ainsi devenue l'autre, mais fécondée par l'être, mais docile au réel, qu'émane l'acte de connaître qui l'a parfait. Voilà ce que Kant n'a pas vu, et que saint Thomas voyait bien. Kant a eu le sentiment profond de la spontanéité de la nature intellectuelle, mais parce qu'il croyait que l'acte de connaissance consiste à fabriquer, non à devenir l'autre, il a follement renversé l'ordre de dépendance entre l'objet et l'intelligence humaine, et fait de celle-ci la mesure et la loi de celui-là. Mais alors que tirez-vous de ces remarques? J'en tire tout d'abord, par parenthèse, cette conséquence que l'activité immanente de notre intelligence, dépendant essentiellement de l'objet, il n'y a de repos et de joie pour elle que lorsqu'elle est totalement vaincue, voire convaincue et maîtrisée par l'objet. Parce qu'alors seulement elle est vraiment libre et active. Cette considération vous fera peut-être comprendre comment la discipline de la foi et de la théologie, la discipline philosophique de l'école, au sens de l'école scolastique de saint Thomas d'Aquin, la discipline de la règle artistique, ne procure pas l'asservissement, mais au contraire, l'épanouissement spontané, la liberté de l'intelligence. Ici, on pourrait illustrer ce propos d'un aphorisme qui n'est pas d'un ami, de Maritain ou de quelqu'un qui est dans le même horizon de pensée, qui est même à l'opposé, puisque Maritain est allé le voir pour lui demander d'empêcher la publication de Coridon. Il s'agit de Gide. Gide est l'auteur de ce bel aphorisme « L'art naît de contrainte et meurt de liberté ». On peut tout à fait le comprendre ici, parce que la discipline de la règle artistique produit la liberté de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que l'intelligence, lorsqu'elle croit sur le témoignage des apôtres, ce n'est pas ce témoignage, c'est à Dieu même qu'elle est soumise, par la lumière intérieure de la foi. Lorsqu'elle apprend d'un maître les voies de la science, ce n'est pas à ce maître, c'est à l'être lui-même qu'elle est soumise, par la lumière intérieure de l'évidence rationnelle. Lorsqu'elle se conforme pour opérer aux règles de la droite raison, ce n'est pas à des règles humaines, c'est aux exigences de l'objet, de l'œuvre à faire elle-même, qu'elle est soumise par la lumière intérieure de la vertu d'art. Alors ici, comprenons bien, lumière intérieure de la foi, Maritain vient s'opposer aux lumières, on va dire extérieures de la raison, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, siècle des lumières de la raison, mais il n'y a pas que les lumières de la raison, il y a 10 siècles de lumières de la foi. Donc ici, le mot « science » renvoie aux sciences qui sont procurées par cette, adéquation, co-naturalité de l'intelligence avec son objet, en partant de cet objet ultime à contempler et à connaître qu'est Dieu. Ainsi, plus elle est soumise, moins elle est contrainte. Opposition entre soumission et liberté. C'est pour ça que la phrase de Gide, elle est comparable dans une certaine mesure. Soumission de la liberté pour trouver, soumission pardon, de l'intelligence pour trouver sa liberté. Dans tous les plans, la phrase de Gide s'applique au plan artistique, c'est-à-dire aux règles de l'art. Laissons cette parenthèse. Philounous n'est pas à l'aise. Il s'agissait de savoir comment l'intelligence travaille le mieux au bien commun des hommes. Habileté de Maritain, il a glissé quand même un rappel fort, qu'on pourrait dire épistémique, pour revenir à la question de l'origine. Mais en fait, ne voyez-vous pas que nous avons déjà répondu à cette question ? Si la liberté de l'intelligence n'était qu'une prétention à se suffire dans la délectation de soi en s'affranchissant de la bonne et dure maîtrise de l'objet, on pourrait croire que servir le bien commun, c'est pour l'intelligence abdiquer sa liberté et renoncer à ce qui fait sa joie afin de se subordonner toute aux intérêts de l'action. Mais s'il n'y a de vraie liberté pour l'intelligence que dans la soumission à l'objet, il n'y a de vrai loisir pour elle que dans l'activité de la connaissance de l'être. Dès lors, c'est dans la mesure même de son loisir et de sa liberté, c'est dans la mesure où elle travaillera d'une façon désintéressée, non pour se complaire en elle-même certes, mais pour s'assujettir à ce qui est, qu'elle servira le mieux l'intérêt commun des hommes. Car les hommes se nourrissent de l'être, comme leur corps vit de pain, leur esprit vit de l'être, de la vérité, de la beauté. Ils ont un besoin immense qu'on les ravitaille en transcendantaux, du seul fait qu'elle s'applique à l'être. L'intelligence travaille pour le bien de la cité, comme de l'univers. Que retrouve-t-on ici ? Tout simplement, le Gorgias de Platon. Calliclès se moque de Socrate dans le Gorgias et lui dit « Enfin, Socrate, tu philosophe, ça va bien pour les adolescents et les adolescents un peu plus avancés, ou voir le jeune homme. Mais parlons de choses sérieuses. L'homme adulte doit faire de la politique. Il doit être utile à la cité dans l'action concrète, pratique. Ta philosophie ne sert à rien, mais enfin... » Argument qui sera repris dans la République. Donc ici, nous sommes au cœur de la définition même du philosophé. Et Socrate essaie de faire comprendre à Gorgias, il lui dit, mais à Calliclès, pardon, dans le Gorgias, il lui dit, mais Calliclès, je suis utile à la cité, justement, par le philosophé. Il ne s'agit pas de superposer Socrate et Maritain, mais de faire comprendre qu'il y a quelque chose de commun à Platon, comme à saint Thomas d'Aquin, comme à Maritain, c'est de dire que l'intelligence, par ce détour apparemment inutile, mais précisément parce qu'elle est désintéressée, est bien plus utile au bien commun qu'une intelligence intéressée, c'est-à-dire orientée vers une action, vers quelque chose de concret, utile à la police. Et la conclusion, la voici. Si nous ne comprenons pas toujours, c'est que nous vivons surtout dans les sens, et que nous avons peine à nous représenter une activité qui ne consiste pas à produire quelque chose au dehors, mais qui, étant d'un ordre supérieur à la matière, demeure et s'achève en soi-même. Pourtant, l'acte immanent de connaître, comme celui d'aimer, qui en dépend, l'acte de connaître est une vie, et même la vie, par excellence.